Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec aujourd'hui la chronique de films qui sont dans les salles depuis le 7 février, puis d'autres qui y étaient auparavant, et puis une interview, celle de Jo Sol, réalisateur de Vivir y otras ficciones, réalisateur espagnol. Bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Manu, tu vas nous parler d'un film dont le titre est assez évocateur.
Revenge de Coralie Farja, et puis je vous parlerai aussi d'un documentaire, Être plutôt qu'avoir, à l'école autrement.
Et puis toi, Marine, des titres courts.
Oui, moi, il sera question d'héroïsme. Je vais vous parler de Sparring, un film français de Samuel Jouy avec Mathieu Kassovitz, et de Stronger avec Jake Gyllenhaal.
C'est Cinérama qui débute avec Jusqu'à la garde de Xavier Legrand.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Il y a des films de consommation courante qui prennent un sujet, une thématique de société, comme le don d'organes, les familles monoparentales ou encore les sans-papiers, pourquoi pas. Le scénario comporte tous les ingrédients nécessaires à réunir les spectateurs, avec, à l'occasion, une larme à tirer ou une bonne tranche de rire à la clé. Le casting est choisi pour plaire au plus grand nombre. Alors des films comme ça, on les voit et on les oublie, et parfois on souhaite même les éviter. Il en sera tout autrement, probablement, quand vous aurez vu Jusqu'à la garde, premier long métrage de Xavier Legrand avec Denis Ménochet et Léa Drucker. Le thème est celui de la violence conjugale, mais avec un vrai traitement cinématographique et un vrai point de vue. Si le film prend l'allure d'un Michael Haneke avec sa rigueur et son austérité formelle, on y trouve aussi une pointe hitchcockienne. C'est là le grand intérêt de ce Jusqu'à la garde qui nous met une bonne claque une fois que le générique défile. Alors non seulement le réalisateur nous a appris quelque chose, mais il a également tissé une relation forte avec son spectateur en exposant un objet de cinéma, se jouant de l'image, du son, des décors, de la narration et du montage. Alors Myriam et Antoine divorcent. Il faut régler la question de la garde du plus jeune des enfants. Question épineuse car Myriam demande la garde exclusive de Julien, son fils de 11 ans, car elle accuse son père de violence. Alors non seulement à son égard, mais également à l'égard de leur fille plus âgée. Alors pas facile pour le juge de trancher, même si les apparences sont contre le père.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, Maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ?
J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Le film s'ouvre avec cette épineuse question, la garde doit-elle être partagée ? Jusqu'à la garde s'ouvre comme un documentaire de Raymond Depardon, au tribunal, un dispositif simple, nous montre le juge et en contre-champ le couple et leurs avocats qui se démènent à coups de déclarations, de sous-entendus et de citations du code pénal pour obtenir gain de cause. L'âpreté de ce dispositif va laisser place à quelque chose qui sera bien de l'ordre de la fiction. Alors une fois quitté le bureau du juge ou de la juge, c'est la peur qui va devenir le moteur de la narration. La peur, c'est celle que suscite Antoine qui est prêt à tout pour retrouver son ex-femme, quitte à manipuler son entourage pour arriver à ses fins. Une tension va alors naître. Jusqu'où cet homme, qu'on aurait pu croire au premier abord bafoué, peut-il aller ? Une fois récupéré la garde de son fils, c'est évidemment vers l'enfant que la pression sera la plus forte. Le jeune garçon, qui est bien obligé de se soumettre à la garde, va faire tout ce qu'il peut pour ne pas jouer le jeu du père qui sort tous les prétextes et chantages pour rencontrer physiquement son ex-femme, ce qu'elle refuse bien évidemment. Alors dans l'extrait que nous allons écouter, il s'agit d'un week-end comme un autre, où il vient le chercher alors qu'il est chez ses grands-parents.
Salut mon cœur, ça va ? Tu peux aller chercher ta mère, s'il te plaît ? Ah ? Tu viens ? Julien ? Julien ? Julien, je vais te laisser y aller à la fête ce soir. Faut juste que je joue avec ta mère quand je te ramène et quand je te récupère, c'est tout.
Elle est pas là.
Oui, si, elle est là.
Elle est pas là.
Si elle est pas là, alors elle est où? Julien, elle est où? Elle est où?
Comme on l'entend ici, il y a une forme de nudité des séquences hein, qui toutes se nourrissent d'une situation, de quelques dialogues et de sons désuets. Ce sont alors des repas chez les grands-parents paternels ou encore les trajets d'Antoine avec son fils. Il y a très peu de musique dans le film. Le réalisateur a préféré un dispositif sonore qui devient oppressant, fait du bip de la ceinture qu'on n'enclenche pas, au clignotant qui résonne dans les silences. Oppressants sont aussi les lieux qu'on côtoie, de la fourgonnette du père à l'appartement de la mère. Portrait d'un homme ne poursuivant qu'un seul but. On voit comment il se débat avec ce qui lui résiste. Finalement, la juge, son enfant et son ex-femme. Après avoir exposé les faits et donné la dimension horrifique de son personnage, à laquelle la juge ne croit pas, eh bien, le réalisateur orchestre un film qui se nourrit petit à petit de la tension pour aller jusqu'à un final d'épouvante où Shining hein, n'est vraiment pas très loin. Sauf qu'il faut bien imaginer l'hôtel Overlook, le grand hôtel Overlook du film de Kubrick, dans un petit appartement d'une jupe de Dijon. Fini les grands espaces et bienvenue la claustro. Jusqu'à la garde est un film maîtrisé de bout en bout, avec des personnages bien écrits, bien interprétés, spéciale à Denis Ménochet qui incarne cet ex-mari violent avec une précision glaçante. Le réalisateur a le mérite de s'emparer d'un sujet, d'en faire une vraie proposition cinématographique. Tension et suspense rythment ce film qui nous transmet si bien la peur que peut susciter un être violent qui confond son amour avec l'égoïsme et la terreur. Ce film, Jusqu'à la garde, a remporté le Lion d'argent, prix de la mise en scène à Venise, et le Lion d'argent du meilleur premier film, toujours à Venise. Et bon, c'est largement mérité. Je vous recommande d'aller voir ce film de Xavier Legrand, premier film d'un réalisateur qui auparavant était plutôt comédien. C'est dans les salles depuis le 7 février. Autre film français, mais cette fois-ci dans la catégorie Rap and Revenge.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Alors comme pour grave, hein, le titre Revenge s'affiche en large et en travers sur tout l'écran, comme une manière un peu volontariste de se créer un passage, de frapper un grand coup et d'avancer fièrement sans retenue vers un territoire cinématographique verrouillé jusque-là par un univers essentiellement masculin. Alors c'est d'ailleurs par ce prisme en trompe-l'œil que débute Revenge, premier long-métrage de Coralie Farja, qui joue avec beaucoup de malice et de perversité avec les codes les plus éculés du cinéma hétéro-beauf. Alors si on ne lit pas entre les lignes, hein, l'agacement peut prendre le pas sur la fascination et le rejet peut s'avérer irréversible. Alors, un riche homme d'affaires suffisant et assez bling-bling emmène sa maîtresse en hélicoptère dans une superbe villa de luxe perdue en plein désert US. L'architecture prétentieuse de la demeure est le catalyseur de l'étalage de vulgarité qui va suivre. Évidemment, la maîtresse est une bimbo ultra sexy, un objet sexuel s'adonnant sans retenue à tout ce qu'on attend d'elle. L'imaginaire cinématographique du spectateur fonctionne alors à plein régime. Puis débarquent les hommes de main de Richard, qui semble être à la croisée. Alors Richard, du chef d'entreprise et du gangster, on ne saura jamais vraiment. Des types minables, reluquants, sans vergogne, comme dans un clip pourri ou un bis décomplexé des 70s, le corps sublime de l'héroïne, Jen, qui ne sait pas alors dans quel pétrin elle s'est fourvoyée. Alors le côté outrancier de tout ce début est un peu un miroir déformé du regard de la réalisatrice qui affiche une dimension ironique et dévastatrice issue de certains comics et même en exagérant un peu de Tex Avery. La soirée s'annonce chaude, champagne et drogue circulent dans un décor paradisiaque sur fond de R&B et d'électro grossière atteignant des sommets de putasserie visuelle. Coralie Farja enfonce le clou, se complaît dans le clinquant pour mieux s'en affranchir par la suite et laisser exploser son talent. Alors les choses dérapent, hein, un des deux types viole Jen. Pour ne pas ébruter l'affaire, étant donné qu'en surface Richard est un brave père de famille, elle est emmenée dans le désert, dans l'enfer jaune du désert et laissée pour morte, empalée sur un bout de bois. Et miracle comme seul le cinéma arrive à nous faire croire pour notre plus grande jubilation, elle reprend vie malgré tout le sang qui s'écoule. Et c'est parti pour une chasse à l'homme ou à la femme, hein, où la proie n'est pas forcément une innocente biche. Le survival se transforme en redoutable rap and revenge, jouissif et abrasif d'une violence incontrôlée, si excessive qu'elle en devient irréelle, pur élément esthétique au cœur d'un film cathartique et débridé. Alors imparfait mais généreux, hein, Revenge impressionne par la maîtrise de la mise en scène, la présence physique de l'actrice principale qui passe de poupée Barbie à machine à tuer. Alors après un démarrage en trompe-l'œil hein, qui pouvait laisser craindre le pire, hein, mais totalement justifié a posteriori, ce Rap and Revenge jusqu'au boutiste, énorme, gore, sexy, culotté, ne vous lâchera pas d'une seconde. La virtuosité formelle est à son apogée lors d'une séquence magistrale vers la fin, où pour une fois, ce n'est pas l'héroïne qui se retrouve nue, mais le mâle, le type, dans une situation critique. Alors on pardonnera les quelques faiblesses de débutants, hein, soit des dialogues parfois ringards et une direction d'acteur pas toujours maîtrisée, enfin, en dehors de l'actrice principale qui est vraiment, vraiment formidable. Mais ce n'est rien comparé au plaisir que procurent ces petites bombes assumant pleinement son côté premier degré et immersif. Alors on reste scotché sur notre fauteuil devant ce spectacle furieux, utilisant à merveille l'espace, notamment le désert, et puis aussi la villa. Coralie Farja n'a peur de rien, alors plus c'est énorme et plus ça passe. La séquence du trip dans la grotte est déjà un grand moment de cinéma transgressif de ce début d'année. Et comme disait Télérama en son temps, hein, attention, âme sensible, s'abstenir. Décidément, bon, après Évolution, Grave, Blind Sun et Dark Touch, le cinéma de genre français féminin n'a pas fini de nous surprendre, écrasant sans difficulté tout l'encore concurrent masculin en France. Hein,
dont Luc Besson. Non,
non, mais c'est vrai, hein, les meilleurs films fantastiques ou on va dire de genre sont réalisés par des femmes depuis, je dirais, 10 ans.
Et c'est pas ce film, Revenge, qui a plutôt bien fonctionné au festival Sundance ?
Sundance, oui. Et puis dans énormément de festivals. Mm. En fait, là, le film, il fait un peu un carton un peu partout, parce que je pense qu'il a un petit côté très premier degré, très décomplexé, qui plaît, et puis il tombe un peu à pic, avec l'affaire Weinstein, ce côté un peu féministe, un peu outrancier, un peu grossier. Je pense qu'il tombe plutôt bien, et il pourrait peut-être marcher. Mais bon, attention, c'est très très violent quand même. Hein.
Pour résumer, une femme se venge, hein, clairement. Revenge. On va parler des coups maintenant avec Mathieu Kassovitz.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Oui, on continue dans la baston avec donc Sparring de Samuel Jouy.
C'est quoi ta carte ?
49 combats, 13, 3, 33 défaites.
Bonne soirée, mon ami.
Il se bat contre qui ?
Marvin Matisse.
Bah, je le connais, Marvin.
Bah, on connaît tous Marvin.
Non, mais je me suis battu contre lui il y a 8 ans. Il sortait de l'amateur.
Où ?
Bah ici, là.
Tu l'as eu ?
Bah non. Mais je sais comment il se bat, je sais comment il tape. Vous cherchez quoi comme sparring ?
T'as combien, là ? 74, 75 ?
Non, je suis en dessous. Mais je peux monter.
Je cherche un sparring qui encaisse et qui fait pas chier.
Bah, c'est moi, ça.
Steve Landry est un boxeur sur la fin, pas de ceux qui ont connu la gloire, plutôt du genre à avoir surtout perdu des combats, mais il continue de se battre à 45 ans, au propre comme au figuré, par amour du sport et pour nourrir sa famille. Pour acheter le piano que sa fille désire tant, il accepte de devenir le sparring d'un champion sur le retour.
Alors c'est quoi, c'est un combat ?
Non, c'est pas un combat. J'entraîne un type qui s'appelle Tarek Mbarek. C'est un champion qui a été... Tu l'as vu sur YouTube déjà ?
Oui, ouais. Ça c'est celui qui sort avec Ambre, je crois.
Voilà, la chanteuse.
Tu sais, oui, ouais. La chanteuse, ouais.
Ok, oui, je vois.
C'est dans la pub que je t'avais montré hier soir. Mmh. Mmh. Tu vois ?
C'est super. Ouais, donc voilà.
Avec lui ? Ok. Et tu l'entraînes ?
Ouais.
Tu vas faire son sparring ?
Ouais, un peu.
Tu te fous de ma gueule, là ?
Non, je me fous pas de ta gueule.
Steve, tu m'as toujours dit que tu ferais jamais le sparring.
Ouais, c'est très bien payé.
J'en ai rien à foutre. Depuis que je te connais, tu me dis que sparring, c'est plus dangereux que faire des combats.
C'est quoi sparring ?
Eh bien, être sparring, c'est lorsqu'un bon boxeur choisit un moins bon boxeur pour s'entraîner avec lui, ou plutôt sur lui, hein, parce que ça consiste à encaisser les coups sans vraiment en donner, grosso modo être un punching ball humain. Alors, Sparring est un film de boxe à la gloire des perdants, ce qui est plutôt rare, le film de boxe étant finalement un genre à part entière, mais qui chérit les vainqueurs, ou ceux qui parviennent à revenir sur le ring. Ici, pas de rise and fall, puisque Steve n'a jamais été très haut et qu'il tombe même de plus en plus bas. C'est un homme qui ne sera jamais champion, et il le sait. Sparring est un film dur, assez austère, mais qui s'intéresse finalement bien plus aux humains qu'au sport en lui-même, qui s'intéresse aux personnes derrière les gants et qui creuse leur motivation. Les scènes de famille sont aussi réalistes que les scènes de boxe, portées par un excellent casting, que ce soit Redouane Arjan, nommée au César dans un mois, Olivia Merilati, chanteuse du groupe The Do, ou encore Souleymane Mbaye, ancien champion du monde. Si pour autant vous aimez les films de boxe, moi personnellement j'aime beaucoup, hein, ne vous inquiétez pas, vous en aurez quand même pour votre argent. Les scènes d'entraînement et de combat sont très belles, bien filmées, immersives, mais le réalisateur ne cède pas à la facilité des ralentis, il ne sublime pas les coups. Ici, on l'a compris, ce qui compte, c'est surtout ce qui se passe dans la tête de ceux qui boxent. C'est la violence psychologique et non physique. Mathieu Kassovitz, c'est très impressionnant dans ce rôle, physiquement déjà. Hein. L'acteur s'est passionné pour la boxe sur le tard, à 40 ans, il en a maintenant presque 50, et il assume ce personnage dans anti-héros tout en retenue. C'est l'inverse d'une performance de cinéma, un rôle tout en intériorité, sans dignité, même celui d'un homme ni très intelligent, ni très charismatique, qui encaisse les coups sur le ring et dans la vie et qui ne les rend jamais. Le réalisateur Samuel Jouy signe un film qui ne fera pas grand bruit, mais qui mérite vraiment d'être vu. Et à l'issue de ce sparring qui réussit à être bouleversant sans jamais qu'un seul de ses personnages ne verse une larme, on se dit vraiment qu'il n'y a que le cinéma français qui arrive autant à magnifier les gens ordinaires. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Eh bien, ça fait déjà deux films français où on se dit que c'est quand même bien le cinéma français.
Bah quand même, hein.
Eh bien, le cinéma espagnol aussi, et on va le prouver.
Trois même, quand je pense. Trois films français d'affilée.
Trois films français. Eh oui, c'est vrai, trois films français.
Track.
Ah, on a bien fait ce sommaire. Et on poursuit cette fois-ci avec un film espagnol, et c'est l'interview de cette émission.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Vivir y otras ficciones de Jo Sol est un film tourné avec trois fois rien sur une idée ou plutôt après une rencontre. Un film espagnol quasiment invisible sur son territoire tellement il est atypique. Un film anticonformiste où le fond prime sur la forme et qui traite d'un sujet tabou, l'assistanat sexuel auprès des handicapés. Alors de festival en festival, il s'est fait sa réputation et a fini par trouver son public, convaincant jury et spectateurs sur la nécessité de faire de tels films travaillés par l'engagement. Son réalisateur Jo Sol prend Varda et Pasolini comme exemple, pourquoi pas. Alors Antonio est écrivain et tétraplégique, il estime que jouir d'une sexualité épanouie est un besoin vital, un choix politique même. La chose est évidemment plus compliquée quand on est handicapé. Comme Antonio est un activiste, il va tout faire pour mettre en place un centre d'assistance sexuelle chez lui, parce qu'il ne peut compter ni sur la sécu espagnole, même s'il aimerait bien la faire casquer, ni sur son aide-soignante, ni sur son auxiliaire de vie, Pépé. Tous deux, à l'image de l'opinion, passent par la case morale avant de tenter de comprendre le discours et l'action d'Antonio, qui lui, eh bien, ne lâche rien. Alors on voit la mise en place de ce service alternatif, de même que l'on voit les corps animés du désir et de plaisir aidés par une prostituée à la fibre militante, voilà, brillante utopie. Alors aux côtés d'Antonio, il y a aussi donc Pépé, beaucoup plus âgé, qui refait surface après un séjour dans un hôpital psychiatrique. Un homme qui a du mal à s'émanciper de lui-même et trouver sa voie, se répétant souvent « je suis un incapable ». Alors on touche là encore une sorte d'handicap. Les deux personnages vont tisser une relation faite de discussions, d'explications, de silence, de distance, contribuant à faire de ce Vivir y otras ficciones un film au ton politique, polémique, qui manie aussi bien le flamenco, on en entend beaucoup, que le discours et l'humour. Tous les acteurs ne sont pas professionnels, le rôle d'Antonio notamment, le paraplégique est tenu par lui-même, il s'agit véritablement d'un activiste. Dans une veine réaliste, le film navigue entre documentaire et fiction, c'est ce que va nous expliquer Jo Sol, comme il nous expliquera pourquoi on voit un crocodile sur l'affiche du film et pourquoi il a tenu à mettre une séquence s'y référant au crocodile. Ce qui se passe, c'est que dès qu'il s'agit d'un film précaire qui a du contenu, un fond, un message, aux yeux des médias, il devient automatiquement un documentaire. Parce que 90% des films que nous considérons comme de la fiction placent la question visuelle au centre du propos, au détriment du fond de l'histoire. Ce film, mon film, déplace cette idée de ce qu'est une fiction aujourd'hui. Parce que le fond est au centre du film, et non plus seulement l'artiste. C'est la confusion entre le fond et la forme. Aujourd'hui, presque personne, presque aucun auteur de fiction ne prend le risque avec le fond et priorise la forme. Il y a 30 ans, n'importe quel cinéaste parmi ceux que nous admirons, en allant de Pasolini à Agnès Varda, tous avaient un fond politique. Ils avaient tous un message politique à transmettre via leur cinéma, via leur art. De nos jours, être réalisateur signifie être avant tout un technicien, c'est quelqu'un qui peut gérer un budget pour faire un film. Vous n'avez plus besoin d'avoir un message politique dans votre tête, vous avez juste à gérer un budget. J'aime la séquence avec le crocodile. Cette idée de métaphore, cette image d'une personne se comparant à un crocodile dans un zoo et non pas dans la savane, pour moi, c'est l'idée générale du film, du précédent ainsi que de tous les films que je ferai. C'est l'idée de n'avoir pas réussi à vivre. Georges Büchner l'explique très bien dans sa pièce, La mort de Danton. Nous avons passé toute notre vie à tenir le couvercle couvercle de notre cercueil. C'est pour moi l'idée de tous ces personnages, de la vie qui m'entoure, du monde qui m'entoure. C'est le genre de cinéma que je veux faire, c'est-à-dire des morceaux de fragments, de discours, de narration, jamais quelque chose de complet. Rien ne représente cette idée de la beauté esthétique, artistique, de plénitude, parce que personne n'y croit, ne lui donne de l'importance, de la valeur. Ce qui donne de la valeur à ces personnages, c'est ce sentiment, le désir de vivre la pulsion, la passion de vivre. C'est ce qui me fascine dans l'être humain. Je ne m'émerveille pas de la beauté, ni de l'esthétique, ni du cinéma spectaculaire. Je suis émerveillé, attiré par ces personnages qui ont cette envie, cette pulsion de vivre. Quand je rencontre ces gens, j'ai le désir d'être avec eux, de créer. C'est paradoxal parce que la vie est considérée comme acquise, mais dans les moments de vérité, ça ne se passe pas ainsi. Les prisonniers ou ceux à qui on brise la vie le savent, hein. C'est la hiérarchie des choses. De nos jours, il n'y a plus de socle, base de sécurité sûre, ni de vocation esthétique. Et c'est ça qui m'intéresse.
C'est ce qu'ils ont réussi, de mettre tant de miedo dans le corps que nous sommes préoccupés de survivre et non de vivre.
Estamos pasando mal, que la crisis est pasajera, que la prospérité est à la vuelta de la esquina.
Les actrices jouent très bien parce que ce sont de grandes actrices, de très bonnes actrices. Elles font ce qu'elles ne font pas d'habitude. Ce que je trouve très intéressant pour elles, tout un travail de déconstruction du processus de la performance du jeu d'acteur. Le naturel, le fait de jouer un rôle, vous met habituellement à un endroit qui n'est pas vous, donc vous n'êtes plus vous. Mais cela ne fonctionne plus si vous avez des vrais gens autour de vous, à vos côtés. Par conséquent, je veux dire qu'en général, les acteurs, ce qu'ils font, c'est interpréter quelqu'un qu'ils ne sont pas. Mais quand vous avez Pepe et Antonio à vos côtés, eux, ils sont vraiment eux, avec beaucoup d'authenticité. Si vous commencez à jouer à ce moment-là, eh bien, ça ne marchera pas. C'est là que c'est très intéressant.
Alors, j'ajoute que je parle absolument pas espagnol, donc cette traduction a été faite par Denise Oliver Ferro, que je remercie tout chaleureusement. C'était Josol, donc le réalisateur de Vivir y otras ficciones, un film qui passe dans une, peut-être 25 salles en France et qui est soutenu par un petit distributeur, le film des Deux Rives, et ils ont eu raison de le soutenir. C'est un film qui a remporté eh bien, pas mal de succès dans les festivals et suffisamment atypique pour vous le recommander. On va maintenant passer à quelque chose de beaucoup plus costaud. Et bizarrement, ça sort pendant que le film de Clint Eastwood, lui aussi, sort sur un thème similaire, celui des attentats.
Semaine chargée, oui.
Ouais, le 15h17 pour Paris, et là, c'est un autre film.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Oui, on va parler de Stronger de David Gordon Green. Jeff est un gars lambda, voire un peu loser, hein, qui bosse dans un fast-food et qui se fait larguer à répétition par la même fille, qui ne le trouve pas très fiable. Elle, Erin, en revanche, c'est une gagnante qui compte bien courir le marathon de Boston et qui ne croit pas une seconde qu'il l'attendra à l'arrivée comme il lui a promis. Et pour une fois, Jeff tient sa promesse. Il se joint à la foule en ce 15 avril 2013, mais c'est aussi le jour et l'endroit qu'ont choisi deux terroristes pour faire exploser une bombe artisanale et faire 170 blessés. Jeff fait partie des victimes, on l'ampute des deux jambes et il va se retrouver très vite propulsé vers une médiatisation qu'il n'a jamais désirée, d'autant que c'est lui qui va permettre de retrouver le terroriste en faisant le portrait robot. Alors, on s'en doute, Stronger est basé sur des faits réels, c'est un semi-biopic. Le personnage de Jeff Bowman existe bien et devinez quoi, il est même devenu très ami avec Jake Gyllenhaal, qui l'interprète à l'écran. Enfin bon, ça c'est ce que nous raconte la grosse promo orchestrée autour du film, qui n'a pas l'air de très bien savoir se placer par rapport à ce qu'il raconte. Stronger s'appuie sur l'autobiographie de Jeff Bowman, dans laquelle le jeune homme remet beaucoup en question son nouveau statut de héros, en se demandant pourquoi le fait d'avoir perdu ses jambes lui donne le droit d'être invité sur les plateaux télé et de représenter les survivants de Boston. Le film pourrait donc produire un discours intéressant sur la notion d'héroïsme et sur une nation américaine en mal de héros contemporains, mais il s'arrête à mi-chemin, sans assumer son regard critique, en préférant remplir le cahier des charges du bon mélodrame hollywoodien. En définitive, on peut dire que le film ne sait pas trop sur quel pied danser, ce qui est quand même un comble pour une histoire autour d'un mec qui a perdu ses deux jambes. Voilà, c'était la blague de la semaine. Non, ce n'est pas un très mauvais film, en fait, c'est juste très conventionnel, mais il y a quand même, c'est vrai, le casting qui rattrape, notamment Tatiana Maslany, qui interprète sa petite copine, et qui vient de finir son contrat avec la série Orphan Black, dans laquelle elle a interprété 15 personnages avant, et qui maintenant se lance au cinéma, et je pense qu'on va entendre parler d'elle dans les prochains mois et les prochaines années.
Si on veut revoir un film sur l'héroïsme, on pourra préférer, pour reparler de Clint Eastwood, le film Sully, sur ce pilote d'avion qui avait permis eh bien, de faire amerrir un avion chargé de passagers à New York. Voilà, c'était plutôt un film sec et bien fait sur ce sujet-là. On va terminer en parlant éducation avec un documentaire qui sans doute bien va faire le tour des salles écoles, françaises, oui, et des écoles.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il y a un dieu quelque part qui aurait écrit des tables de la loi selon lesquelles, pour qu'il y ait un apprentissage et une école, il faut que tous les élèves soient du même âge, du même niveau, écoutent le même professeur en même temps et fassent les mêmes exercices au même moment. Or, nul n'a jamais écrit ça. Ça, c'est une forme historique déterminée et qui peut parfaitement être réinterrogée.
Alors, on entendait là la voix de Philippe Mérieux, qui est une éminence grise, on va dire, en sciences de l'éducation. Alors, le titre, hein, « Être plutôt qu'avoir, à l'école autrement hein, », est clair, il ne laisse guère l'alternative et fait l'écho à un autre documentaire, « Être ou avoir » de Nicolas Philibert. Il s'agit également d'un film sur l'école et ses pratiques, ou plutôt d'une démonstration, alors non pas en force, mais pédagogique, visant à dénoncer, on va dire, les travers des apprentissages enseignés dans les écoles classiques, afin d'évoquer des alternatives possibles. Alors au début, le film s'appuie intelligemment sur des extraits de Zéro de conduite de Jean Vigo, notamment cette fameuse scène où une petite fille dit « Messieurs les professeurs, je vous dis merde ». Alors au moment où le film, je parle de Zéro de conduite, est censuré en 1933, Hitler prend le pouvoir et les premiers camps de concentration sont créés. Je ne dis pas ça au hasard, c'est parce qu'ils en parlent vraiment dans le film. Alors la réalisatrice, elle met en perspective ces événements avec des questionnements pertinents. Alors l'éducation dans tout ça. L'école est-elle le lieu pour formater de bons petits soldats s'intégrant dans le système ou l'endroit idéal pour préparer des êtres libres à critiquer les institutions? Alors le point de départ est clair, trop peut-être et sans enfoncer des portes ouvertes, il sert d'exemple pour alimenter un discours pédagogique sur les écoles alternatives créées au début du XXe siècle, privilégiant les expériences avec l'environnement, au savoir institutionnel. Alors, agrémenté d'extraits de films, de gravures, de dessins, de chants, Agnès Fouilleux signe un joli documentaire qui ravira les défenseurs d'une scolarité en marge et laissera sans doute perplexes les autres. Alors, ceux qui connaissent le sujet n'apprendront certes pas grand-chose, mais se trouveront confortés dans leur position idéologique. Alors, Maria Montessori, Rudolf Steiner et surtout Célestin Freinet sont les sources d'inspiration inépuisables de ce film très bien argumenté. Entendre la voix de Freinet qui énonce avec une lucidité incroyable sa vision de l'apprentissage est un moment assez fort. Alors, tout ce qu'il défend est encore d'actualité et n'a jamais paru aussi pertinent. Il pensait que les enfants donc, devaient vivre, explorer l'environnement, expérimenter avant d'intégrer des savoirs théoriques, la pratique avant la théorie et le fondement même des écoles nouvelles, à leurs propos largement relayés par les intervenants divers, professeurs, psychologues et pédagogues.
On met 20 ou même 30 enfants du même âge dans la même classe, dans une dynamique en plus d'insécurité et de compétition. Attention, tu vas voir, on va te noter. Attention, ne parle pas avec tes camarades. Dans la plupart des écoles aujourd'hui, il n'y a pas de moment de parole, il n'y a pas de moment de rencontre, il n'y a pas de moment où on va apprendre la relation.
Dans une société où le chacun pour soi est devenu la règle universelle, dans une société où l'enfant est invité en permanence à acheter pour se sentir exister, l'éducation nouvelle apporte un message qui me semble particulièrement d'actualité à revisiter. C'est celui qui consiste à parier sur la coopération, à parier sur l'entraide, à parier aussi sur la régulation dans l'éducation que peut apporter ce contact essentiel de l'enfant avec l'objet, avec la nature, avec l'expérience.
Alors très, très présent, hein, les interventions de Philippe Mérieux, hein, qui a d'ailleurs beaucoup participé au programme de l'éducation nationale, hein, elles sont pertinentes. Alors sans être trop radical, hein, comme on l'entend, il s'interroge aussi sur le rapport que les enfants ont avec les écrans et pense que le contact avec la nature et ses éléments est essentiel dans la construction physique et psychologique de l'enfant. Ensuite, il peut apprendre et il insiste sur le fait qu'un adulte doit... Alors, bon, bien sûr, ça, c'est un vœu pieux, je dirais. Qu'un adulte doit être cohérent et doit systématiquement mettre en pratique ce qu'il transmet à nos chères têtes blondes. Et il insiste beaucoup là-dessus. Alors, les propos sont certes édifiants, mais justes, même si dans la vie de tous les jours, les choses sont toujours plus complexes. Alors, au final, hein, Être plutôt qu'avoir est un documentaire intéressant, hein, certes très orienté idéologiquement, mais qui ne triche pas sur ses intentions. Il nous amène aussi à réfléchir sur un certain nombre de concepts que l'on croyait acquis. On peut juste regretter qu'il manque un peu de cinéma, hein, carence évidente lorsque surgissent les extraits de Zéro de conduite. L'image vidéo manque de relief, l'étalonnage est parfois bâclé, les couleurs assez ternes, et puis l'alternance de plans juste fonctionnels.
Mmh. Et le son aussi.
Et le son aussi. Bon, alors Agnès Houillot s'en tient, on va dire, à son propos, à l'illustre de belles idées, force à la réflexion, mais peut-être oublie de réaliser un film. C'est un peu la grosse limite de ce documentaire, qui a peut-être plus sa place, je pense, à la télé que dans des salles obscures.
Et pourtant, il sera sans doute accompagné par Agnès Houillot, la réalisatrice, ou par des associations.
Mais voilà, c'est-à-dire que dans un cadre particulier, je pense que ce film est très intéressant et qu'il peut effectivement marcher et être diffusé amplement. Mais alors regardez juste comme ça, ça me semble parfois un petit peu limite.
En tout cas, il nourrira sans doute des discussions.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, aujourd'hui, nous avions l'interview d'un Espagnol et la semaine prochaine, Marine
La semaine prochaine, ce sera une interview de Mélanie Laurent et de Jean Dujardin, puisque je vous parlerai du retour du héros. Ce sera également le retour du zéro, puisque je vous parlerai de 50 nuances plus claires.